Les rendez-vous santé d'Africa Radio, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
Chaque année, les parents n'échappent pas aux maladies de l'hiver qui touchent la plupart des enfants. Les virus souvent responsables d'infections ORL se développent plus facilement à faible température. Bronchiolite, rhume, grippe, otite, rhino, bronchite ou angine, ce sont souvent des maladies bénignes, mais aussi pour la plupart contagieuses et inconfortables. Alors comment prévenir ces maladies, les identifier et les soigner? Sur le continent africain, l'hiver en Europe correspond notamment en Afrique de l'Ouest, à la période de l'harmattan qui favorise le développement de maladies. Nous en parlons avec nos invités ce matin. Au téléphone d'Africa Radio, nous rejoint le docteur Jacques Chémol. Il est pédiatre, porte-parole de la Société française de pédiatrie. Merci beaucoup, docteur, de nous rejoindre. Avec nous aussi, le docteur Anneau Marin, directeur de l'espace médical La Pyramide à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui nous rejoint également. Alors, docteur Chémol, pour commencer, on a évoqué les principales maladies de l'hiver hein, chez les enfants. Y en a-t-il d'autres ?
Écoutez, en dehors de celles que vous avez évoquées, on pourrait rajouter l'épidémie de diarrhée à rotavirus qui intervient aussi très souvent en hiver, soit vers le mois de janvier, soit avant, suivant les années. Mais vous avez résumé toutes ces maladies infectieuses que l'on voit apparaître dans les temps hivernaux.
Alors, est-ce que les enfants de moins de 2 ans sont les plus fragiles, docteur ?
Eh bien, il y a deux choses, si vous voulez. Il y a le fait que les enfants de moins de 2 ans ont une immunité qu'on appelle acquise, qui n'est pas encore complètement renseignée de tous les virus environnants, et donc qui passent leur premier mois à prendre contact à ces virus, soit de manière inapparente, soit en faisant des petites maladies pas forcément très graves. Et donc, c'est d'une part pour ça que ces enfants sont un peu plus souvent malades. Et deuxièmement, c'est le fait très souvent d'être en collectivité qui favorise la survenue plus fréquente de ces infections, même si ce n'est pas systématique.
Docteur Jacques Chémol, comment se transmettent ces virus saisonniers ?
Ils se transmettent de manière assez simple, qui sont soit parfois respiratoires, dans les gouttelettes contenues dans nos expirations, soit à travers les mains, soit d'autres enfants, soit d'autres adultes qui vont en s'occuper d'eux, transmettre les virus. C'est ce qu'on vit actuellement avec cette histoire de Covid. Mais la transmission, par exemple, de la diarrhée, de la bronchiolite, se fait par contact direct avec d'autres personnes porteuses.
Est-ce qu'il faut plus protéger les enfants du froid ? Les virus, en grande partie responsables des infections ORL, se propagent bien plus facilement à basse température ?
Alors là, il y a deux raisons, sans doute. C'est que quand il fait froid, les gens se retrouvent plus de manière confinée en groupe. Et c'est ça qui fait que le risque de contamination, d'être en proximité, fait que les enfants sont plus contaminés. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, le froid peut avoir une influence sur certains virus en les prolongeant dans leur vie. Pour certains, ce n'est pas vrai. Et puis, il y a aussi, mais là, c'est plus vrai chez l'adulte, il y a des modifications cardiovasculaires lorsqu'on a froid qui favorisent un certain nombre de pathologies. Mais ce sont surtout, en fait, le fait que les nourrissons, les enfants vivent en collectivité et ne s'écartent pas les uns des autres qui fait que ce confinement dû à la froideur va favoriser les virus. L'exemple typique, c'est quand on a une épidémie de bronchiolite qui, en France, débute très souvent mi-novembre. Eh bien, quand arrivent les vacances de Noël, que les enfants quittent les crèches ou quittent l'école, eh bien, on voit très souvent cette épidémie se casser du fait que les enfants ne sont plus en groupe.
Docteur Chémol, en cette période de Covid-19, est-ce qu'en raison du port du masque, du respect des gestes barrières, vous diriez qu'il y a moins de transmission des virus de ces maladies cette année ?
Oui, vraisemblablement, et on a déjà vu ça au moment du premier confinement où les pathologies aiguës de l'enfant ont beaucoup diminué du fait qu'ils étaient confinés chez eux et qu'on leur obligeait des gestes barrières. Donc là, vraisemblablement, on peut supposer qu'avec ces mesures barrières prévues pour le Covid, eh bien, ça entraîne un pic de grippe qui soit certainement moins important. En tout cas, c'est ce qu'on attend.
Alors, quelles sont les maladies qui peuvent se développer même avec le masque et le respect des gestes barrières ?
Eh bien, tout dépend de la contagiosité de la maladie elle-même. Vous savez que suivant les germes, suivant les virus, eh bien, une maladie peut être très contagieuse ou moins contagieuse. L'exemple de la rougeole, qui est une maladie très contagieuse, fait que le risque est plus grand devant ces maladies d'être contaminé, même avec des gestes barrières, même si ces gestes diminuent bien la contagiosité. Et deuxièmement, certainement la charge virale que contient la gorge de certains adultes ou certains enfants va favoriser ou pas la contamination. Mais on n'est pas à l'abri d'avoir une méningite ou autre chose parce qu'on est protégé par un masque.
Nous allons à Abidjan retrouver le docteur Anneau Marin, directeur de l'espace médical à Abidjan. Docteur Anneau Marin, bonjour. Bonjour docteur, vous nous entendez ?
Bonjour, vous m'entendez ?
Oui, on vous entend très bien, docteur Anneau Marin. Lors des changements de saison sur le continent africain, quelles sont les maladies qui touchent en particulier les enfants ?
Alors, pour rester dans cette période de changement de climat dont vous parlez et actuellement, qui correspondrait peut-être à l'hiver, qui part de la mi-novembre à fin mars, pendant cette période de l'année, il sévit un climat particulier favorable à la survenue d'un grand nombre d'affections, les unes plus graves que les autres. Ce serait entre autres tout ce que mon prédécesseur a dit, la grippe, la méningite cérébro-spinale, les infections respiratoires, comme vous avez dit, l'asthme, la tuberculose. Et particulièrement en Afrique, nous avons notre paludisme, des gastro-entérites, la drépanocytose, les aspergilloses, pouvant aller jusqu'au trouble psychique.
Docteur Anneau Marin, l'hiver donc en Europe correspond à la période de l'harmattan, en Afrique de l'Ouest notamment. Alors rappelons pour nos auditeurs que l'harmattan est un vent. Alors quelles sont les conséquences du passage de l'harmattan pour les enfants ?
Effectivement, comme tu le dis si bien, l'harmattan est un vent très chaud le jour, plus froid la nuit, et très sec, sableux et chargé de particules poussiéreuses qui provient du Sahara et qui souffle vers la côte et qui s'étend sur toute l'Afrique de l'Ouest, du Sahel jusqu'au Cameroun et pouvant arriver même jusqu'au Tchad. Alors, cet harmattan, comme je l'ai dit tantôt, entraîne des poussières qui contiennent des particules végétales, ce sont des herbes, des fleurs sèches, du pollen, des particules animales, des plumes d'oiseaux, des déchets de toutes sortes, des microbes, des virus, des parasites, des champignons microscopiques. Alors on constate pendant ce temps-là, chez certains enfants, la peau qui se cracole, c'est-à-dire des dermatoses, une atteinte des mucoses buccales, les narines qui dessèchent, des efforts de toux pour se moucher qui traumatisent les vaisseaux et font saigner. Donc c'est une période propice à beaucoup de pathologies.
Mmh. Est-ce que tous les enfants sont touchés ou seulement les plus fragiles ?
Alors, de manière générale, tous les enfants, comme disait, alors il faudrait que ces enfants-là soient d'abord correctement vaccinés. Donc, les enfants non vaccinés sont atteints et les plus fragiles qui présenteraient une immunodéficience acquise, une anémie, une pathologie associée à leur état de santé qui les fragilise.
Docteur Anneau Marin, est-ce que aussi, parce qu'on parle des maladies liées au passage de l'harmattan, mais est-ce que aussi les rhumes, les grippes, les otites, les bronchites ou les angines aussi, ce sont des maladies aussi que l'on constate, que vous observez aussi chez les enfants ?
Effectivement. En dehors de l'harmattan, où est-ce qu'on retrouve vraiment des pics, un nombre très élevé, sur toute l'année, on constate chez les enfants, les rhinobronchites, après le paludisme et certains syndromes infectieux, constituent les vrais motifs de consultation. Comme disait, à cause des collectivités, la vie commune, à l'école primaire, dans les écoles, et puis, vous savez, le mode de vie africain, où est-ce qu'on est tous ensemble, une vie familiale du père jusqu'à deux ou trois générations dans la même cour commune. Hein.
Et est-ce que vous constatez, comme le disait le docteur Jacques Chémol, hein, pour la situation en France, que cette année, en période, en raison du Covid, en raison du port du masque, du respect des gestes barrières, il y a moins de transmission des virus de ces maladies ?
Oui, effectivement, comme je l'ai dit et comme je vous disais, le port des masques va influencer de manière positive sur la survenue de ces maladies parce que ce sera une barrière pour ces vents poussiéreux. Donc, je suis d'accord avec lui.
Docteur Jacques Chémol, alors comment faire la différence entre ces maladies de l'hiver? Comment faire la différence entre une bronchite, une angine, une grippe?
Alors, pour faire la différence entre ces maladies, il y a d'abord la façon dont elles se présentent cliniquement, même si la définition d'une bronchite est un peu compliquée, c'est souvent un encombrement quand on écoute la toux, si vous voulez. Deuxièmement, une angine, ça se reconnaît en général quand on ouvre la bouche des enfants et qu'on constate une angine, et on a des moyens d'avoir, avec des diagnostics rapides, la nature infectieuse, bactérienne, streptocoxique ou pas. Quant à la grippe, elle a très souvent dans sa forme classique, d'abord une entrée dans la maladie assez brutale, c'est-à-dire que les gens décrivent très bien, et pour les enfants c'est assez vrai aussi, une montée rapide de la fièvre, avec une décroissance le deuxième jour et une réascension le troisième jour. Ça, c'est la forme un peu classique qu'on appelle le V grippal. Et on peut aussi avoir des diagnostics rapides pour pouvoir différencier ces maladies qui peuvent se présenter toutes avec de la fièvre. Mais en tout cas, l'angine et la grippe, en général, n'ont pas le même aspect clinique. Mais on peut s'aider de la biologie quand on a là une disposition, bien sûr. Mmh.
Alors, justement, comment prévenir ces maladies? Par exemple, certains parents boostent l'immunité de leurs enfants avant l'hiver. Alors, quels sont les conseils que vous donneriez aux parents?
Bien d'abord, ce serait de faire vacciner correctement les enfants. Ce serait la première réponse. Deuxièmement, pour ce qui est de la grippe, on propose à ce que les enfants qui ont des facteurs de risque comme des maladies chroniques, des asthmes, des cardiopathies, des anciens prématurés soient vaccinés contre la grippe et que les parents tout autour se vaccinent contre la grippe. C'est certainement une des meilleures préventions. Quant aux idées de pouvoir, comme vous dites, booster l'immunité, rien n'est démontré dans ce domaine-là.
Alors, docteur Anomarin, vous le disiez, donc sur le continent actuellement, notamment en Afrique de l'Ouest, correspond au passage de l'harmattan. Alors, comment prévenir les maladies liées au passage de ce vent et quels conseils aussi vous donnez aux parents?
Alors, comme disait le docteur Jacques, la meilleure des préventions, c'est d'abord la vaccination. Nous avions le calendrier vaccinal ici qui vraiment protège ses enfants contre toutes les maladies respiratoires. Et après la vaccination, il y a des méthodes beaucoup plus pratiques. Par exemple, éviter de prendre le froid en se couvrant bien la nuit et le matin. Protéger les voies respiratoires à l'aide des masques dont on en parlait tout de suite. Humidifier les voies respiratoires, des solutions de lavage physiologique. Et puis en Afrique, on a le beurre de karité, le karité qui est un arbre qui, avec les grains, on produit du beurre qui protège. Et puis, consulter le médecin devant des premiers signes d'une maladie qui apparaît.
Alors, docteur Anomarin, comment identifier ces maladies et les prévenir?
Bon, la prévention, je viens d'en parler, mais le docteur Jacques l'a dit, j'ajouterai peut-être pour la tuberculose, c'est des maladies qu'on n'en trouve pas souvent en Europe, mais qui sont fréquentes dans nos pays. C'est une toux chronique, plus de 2 semaines associée à des sueurs nocturnes avec un amaigrissement. La drépanocytose, c'est une maladie du sang et puis qui se manifeste par des douleurs, qui est due à une malformation des globules rouges. Et puis les infections respiratoires, c'est les mêmes signes généralement. Et nous ici, nous avons la méningite qui est assez violente, des violents maux de tête, des vomissements faciles, une raideur de la nuque surtout et puis des fièvres, des convulsions. Donc devant ces signes-là... Et puis le traitement, il est particulier, comme l'a dit le docteur, pour chaque pathologie, en fonction du profil du malade, qu'il soit vacciné ou pas, des conditions dans lesquelles il vit. Il n'y a pas de schéma type. Alors, quand c'est une maladie d'origine bactérienne, il faudrait souvent penser à associer une antibiothérapie. Mais pour toutes ces pathologies que j'ai citées, la prise en charge... n'est pas standard.
Alors docteur Jacques Chémol, soigner ces maladies de l'hiver, cela passe nécessairement par des médicaments. Est-ce que pour les enfants de moins de 2 ans, il faut aussi utiliser des médicaments?
Eh bien, dans un certain nombre de maladies dites virales, en fait, on ne va être que devant des traitements symptomatiques et essentiellement traitement de la fièvre. Donc, on utilise beaucoup le paracétamol chez ces enfants-là, s'ils ont des fièvres prolongées au-dessus de 38,5. Mais dans beaucoup d'autres situations, on n'a pas d'autres médicaments à donner. Si on pense que les enfants ont une maladie bactérienne, alors on peut effectivement utiliser une antibiothérapie adaptée, mais on est en tout cas en Europe dans une sorte de... on a été dans une surconsommation d'antibiotiques qui fait qu'on est dans une sorte de lutte pour minimiser le nombre d'antibiotiques prescrits afin que ne se développent pas les problèmes de résistance aux antibiotiques que nous avons depuis plusieurs années. Donc les indications ou les recommandations sont très limitées et c'est pour ça que nous avons développé l'intérêt des tests diagnostiques, en particulier des angines, qui étaient beaucoup trop souvent traitées par antibiothérapie inutilement. Alors, bien sûr, dans les otites, on donne aussi assez souvent des médicaments contre la douleur dans le premier temps, mais beaucoup d'otites n'ont pas à être traitées par antibiothérapie en fonction et de l'âge et de l'aspect otoscopique.
Est-ce que vous déconseillez certains médicaments qui sont plus nocifs que d'autres pour les enfants ?
Il faut éviter les médicaments inutiles. C'est-à-dire que très souvent, les enfants ne repartent avec qu'une ordonnance contre la fièvre s'il n'y a pas d'indication. Le médicament plus nocif, c'est celui qui n'est pas indiqué. Et bien évidemment, il y a certains médicaments antibiothérapiques qu'on on réserve plutôt à l'adulte qu'à l'enfant, même si maintenant on a élargi un peu ces indications. Il y a des doses aussi à respecter en fonction du poids des enfants. Mais pour ce qui est de ces maladies-là, on peut utiliser les médicaments nécessaires, on n'a pas de gros problèmes.
Docteur Anomara, alors quels sont les traitements utilisés en Côte d'Ivoire pour soigner ces maladies diverses chez les enfants ?
C'est le même protocole que vient de dire le docteur Jacques Chemol. Et je dirais que je suis, j'adhère à sa pratique. Comme je dis aujourd'hui, l'utilisation des médicaments doit venir vraiment en second lieu. Il y a des mesures hygiéno-diététiques, il y a des mesures de prévention. Aller aux médicaments essentiels, et éviter les effets secondaires, les effets indésirables des médicaments, utiliser le moins de médicaments le plus possible. Parce que le problème en Afrique, chez nous ici, nous avions des médicaments de rue. Nous avons des médicaments qui sont vendus à la volée, non pas dans des pharmacies. Donc, il y a des effets toxiques, il y a des effets pas favorables du tout dans la gestion de ces médicaments. Donc, nous nous conseillons plus les mesures hygiéno-diététiques, les mesures de prévention et puis aller aux médicaments quand vraiment cela s'avère nécessaire et pour l'état de l'enfant.
Docteur Jacques Chemol, nous sommes en période de pandémie de Covid-19. Alors, comment faire la différence entre la Covid-19 et ces maladies de l'hiver, hein, telles la bronchite, le rhume ou la grippe ?
Bien, c'est assez compliqué dans la mesure où nous avons appris que le Covid-19 peut à la fois être présent chez quelqu'un sans symptômes. Ça, c'est la première chose. Et que deuxièmement, quand il a des symptômes au début de sa maladie, elles peuvent être faites de choses assez communes, que représentent de la fièvre, mal à la tête, un rhume. Une seule particularité, mais chez le petit enfant, c'est compliqué à identifier, c'est l'anosmie, qui chez l'adulte est assez typique de cette atteinte virale. Donc, devant ces situations de symptômes, en tout cas, la seule façon de différencier, c'est sans doute de faire un test, qui soit un test qu'on appelle PCR, soit les tests antigéniques qu'on a maintenant à notre disposition. Mais encore faut-il qu'il y en ait suffisamment à disposition du personnel paramédical et médical et qu'on puisse savoir ces résultats relativement rapidement. En tout cas, en France, les tests antigéniques sont certainement un progrès puisque en une demi-heure, on peut avoir le résultat. Le problème de la PCR est que jusque-là, pour des questions logistiques, on avait très souvent trop de temps entre le prélèvement et la réponse.
Donc,
qui pose le problème de la contagiosité.
D'accord. Donc, docteur Chemol, vous conseillez aux parents de faire tester l'enfant au moindre rhume, par exemple ?
Non, pas forcément, parce que on ne pourra pas, dans cette période d'entrée dans l'hiver, certainement tester tout le monde. Ça sera impossible. Si on a une notion de malade dans la famille ou dans le groupe dans lequel est l'enfant, il faut certainement le faire. Si on a à disposition suffisamment de types antigéniques, il faudra le faire certainement plus souvent. Mais le prélèvement est un peu compliqué chez l'enfant dans la mesure où c'est un prélèvement nasopharyngé. Bon, c'est faisable, mais un peu désagréable. Mais faire tester tous les rhumes, ça sera, à mon avis, compliqué. Mais néanmoins, il ne faut pas hésiter, à mon avis, si on peut le faire facilement, à le faire. Dans l'idée, non pas de prévenir chez la personne la maladie, mais surtout de prévenir la contamination. Mmh. Alors, la seule chose, c'est qu'il semblerait que chez l'enfant, d'une part, il soit peu contaminant chez les autres, et deuxièmement, qu'il soit peu malade lui-même de maladies graves, de formes graves, comme on voit chez l'adulte.
Alors justement, chez ces enfants, quels sont les symptômes qui doivent faire penser à la Covid-19 ?
Il n'y a pas de syndrome spécifique, puisque comme je vous l'ai rappelé au début, soit il n'y a pas de symptômes du tout, soit ça se manifeste par de la fièvre, une toux, un nez qui coule, assez peu de choses. Et on voit peu d'enfants qui ont des manifestations respiratoires importantes, comme les adultes, ont au bout de quelques jours, au bout de 6 à 7 jours de maladie, peuvent avoir d'aggravation respiratoire. Je ferai simplement une petite restriction pour les adolescents, puisqu'on a vu au mois de mars et avril apparaître quelques rares enfants adolescents qui ont fait ce qu'on appelle des maladies de Kawasaki-like, mais c'est assez rare, mais néanmoins, bon, les adolescents semblent un peu plus à risque.
Docteur Anomarin, est-ce qu'en Côte d'Ivoire aussi il y a une difficulté pour les parents de faire la différence entre la Covid-19 et les maladies telles la bronchite, le rhume ou la grippe ?
Effectivement, il y a une difficulté chez les parents de faire cette différence-là. C'est cela que nous conseillons, comme le disait le docteur Jean, devant toute pathologie, surtout en cette période-là, de se rendre immédiatement à l'hôpital. Mmh. Le médecin, le pédiatre, le praticien hospitalier sera en mesure de faire cette différence-là et apporter le traitement adéquat, évitant l'automédication. Parce que très souvent ici, c'est un phénomène qu'on déplore le plus. Se rendre directement à la pharmacie, demander les médicaments, les acheter, puis les administrer à son enfant.
Mmh. Et c'est plus simple de faire un test à Abidjan, par exemple, pour un enfant, s'il a un rhume, pour le moindre rhume ?
Alors, effectivement, il y a des critères qui vont amener le praticien à demander un test. Aujourd'hui, nous avons une amélioration quand même dans les tests. Nous avions assez de centres. Nous avions les résultats des tests qui viennent assez rapidement. Donc, demander le test en attendant qu'il vienne pouvoir appliquer un traitement symptomatique, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile, particulièrement en Côte d'Ivoire.
Docteur Jacques Chémol, alors il y a les gestes simples, ouvrir les fenêtres régulièrement pour aérer les maisons, le lavage des mains. Est-ce qu'il y a d'autres recommandations à faire aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui pour essayer de limiter ces infections ?
Il y a une recommandation, c'est de limiter les contacts sociaux. Actuellement, la France a confiné l'ensemble de la population pour limiter ces contacts, dans la mesure où les mesures barrières n'ont pas suffi à arrêter la deuxième vague de pandémie. Donc ce qu'on peut recommander, c'est ce que vous avez dit, c'est la ventilation des locaux, le lavage très régulier des mains, mais de manière prolongée, c'est-à-dire que bien laver des mains, ça demande 30 secondes au moins, et deuxièmement, de porter un masque et le porter correctement, et le changer si ce sont des masques papier, et puis surtout éviter les rencontres familiales inutiles. Alors bien sûr, par exemple, dans les décès, les choses comme ça, c'est toujours très compliqué de ne pas pouvoir se rendre à des obsèques, mais il faut se rendre compte que ce sont les rencontres familiales qui sont une des pourvoyeuses des transmissions, en plus des rencontres religieuses ou autres, mais on s'est aperçu qu'en France actuellement, ce sont les pourvoyeuses de clusters ou de transmissions.
Merci à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette émission sur les maladies de l'hiver chez les enfants. Plus d'infos sur le site de Santé Publique France. Merci à Nadir Djuna d'avoir préparé cette émission. On s'écoute un peu de musique avant de retrouver dans un instant Ambiance Africa. Merci à vous deux.